est blanche.
On repart pour un tour dans 40 nuances de Next, toujours avec mon compère Olivier Mathieu. Bonjour Olivier.
Bonjour Thomas. Et bonjour Rodolphe.
Et cette semaine, justement, avec Rodolphe Ardan, le cofondateur et CEO de Spendesk, on passe 2 heures ensemble, une partie dédiée à son business et une seconde partie qui s'intéressera plus spécifiquement à l'homme derrière l'entreprise. C'est parti.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Ils sont 40. 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. C'est parti pour le 40 nuances de Rodolphe Ardan. On ne démarre pas un 40 nuances de Next sans le pitch vu par mon compère Olivier.
Merci Thomas, bonjour Rodolphe.
Bonjour Olivier.
Alors tu vas pouvoir me corriger, mais voilà ce que j'ai pu un peu glaner comme information. Évidemment, Spendesk est très connu dans l'univers de la French Tech et de l'innovation française. Alors je crois que c'est une création en 2016. En préparant le podcast, on disait qu'un des, un de tes associés n'est plus à bord, mais enfin en tout cas il y avait Jordan, Guilhem Bellion et toi-même, donc Rodolphe Ardan. Et c'est intéressant de souligner aussi que c'est une de ces startups qu'on qualifie donc de SaaS, hein, software as a service, qui a été incubé, enfin lancé aussi avec eFounders, le startup studio bien connu, enfin que tous les gens de la tech connaissent bien, mais on pourra en reparler un peu,
carrément.
Notamment créé par Thibault Elzière, qui est un entrepreneur qu'on respecte tous beaucoup, avec beaucoup de succès. Donc qu'est-ce que c'est que Spendesk, une solution de gestion des dépenses professionnelles pour les petites entreprises, plutôt pour les petites entreprises. Alors pourra peut-être en reparler.
De grandir, ouais.
En tout cas, c'est ce que j'avais retenu du début, mais bon, ça peut évoluer, évidemment, tu me mettras à jour, Rodolphe. J'avais relevé 3000 clients PME, donc on pourra voir où est-ce que vous en êtes. Avec aussi un développement international, mais plutôt une priorisation sur l'Europe. Il y avait un parti pris qui n'était pas forcément allé tout de suite aux États-Unis, ce qui est une question qui revient souvent dans nos podcasts, et puis en plus généralement chez les entrepreneurs français, qu'on pourrait essayer de comprendre pourquoi. Donc France, Allemagne, Royaume-Uni, c'est le territoire européen. Évidemment, il y a eu récemment 2 levées de fonds qui ont été successives, et chacune de 100 millions d'euros, donc c'est beaucoup d'argent, avec successivement General Atlantic et Tiger, qui sont des très gros fonds américains. Donc ça avait beaucoup fait couler d'encre aussi, hein, parce que les investisseurs américains arrivant en Europe et particulièrement en France, évidemment, ça qualifie l'attractivité du pays. Évidemment, tout ça a été largement mis en avant aussi par le gouvernement, par le président Macron, etc. Parce que c'est le statut de la licorne, c'est le fait de rentrer dans le Next 40, enfin, c'est le fait de passer de start-up à scale-up. Je crois que vous êtes 400 employés maintenant, donc c'est vraiment une grosse entreprise dans la tech. Alors, il me semble que vous avez levé 160 millions. Alors, du coup, ça fait combien? 260
millions
d'euros.
Pardon,
260 millions d'euros depuis le début. Et puis ça serait intéressant aussi de parler un peu de ce qui se passe maintenant, et j'en conclue avec ça, des remous un peu avec la crise, hein, parce que on dit aussi que les valeurs de la tech et l'accès à l'argent pour lever des fonds, et puis peut-être des impacts directement sur le business, est un peu bousculé aujourd'hui, hein, par la crise, qui est la succession de plein de choses, enfin notamment la crise ukrainienne, l'inflation, la remontée des taux d'intérêt, l'effondrement des valeurs boursières. Donc c'est des questions qui peuvent se poser, j'imagine, pour un entrepreneur qui pourrait envisager une IPO peut-être dans quelques années.
Avant de lancer, parce qu'on avait tout plein de questions, mais je réavance certaines questions, comme Olivier l'évoquait, 2 levées de fonds successives, 100 millions puis 100 millions. Moi, j'étais persuadé qu'à chaque fois, la levée de fonds d'après était plus grosse.
Bon, ça, pas forcément. Ça dépend vraiment de tes besoins et de ce que tu as besoin d'aller chercher pour pouvoir te développer. Nous, ce qui s'est passé, c'est l'été dernier, on a levé, en effet, 100 millions d'euros avec General Atlantic au moment de notre série C. D'autres investisseurs voulaient rentrer sur ce tour, ce qu'on n'avait pas voulu faire à ce moment-là. Et en fin d'année, sentant potentiellement le retournement qu'il allait avoir sur les marchés.
C'est toujours bien d'avoir du cash.
Ouais, exactement. Et puis on s'est dit, mais surtout parce qu'on est sur un business model, on pourra en parler, avec des unit economics qui sont très fortes, mais sur un marché qui est nouveau. Donc il y a un enjeu d'évangélisation finalement de Spendesk et de cette logique de décentralisation finalement de l'acte d'achat de la dépense au sein de l'entreprise qu'on a besoin d'accélérer, qu'on a besoin d'évangéliser et qui naturellement si on veut aller prendre des parts de ce nouveau marché demain, va demander des investissements.
Alors justement, on va parler Spendesk et pour raconter en musique l'aventure Spendesk, tu as choisi Purple Rain de Prince. Je te propose de l'écouter et puis on peut même commencer à commenter par-dessus.
Là, c'est la version live.
Ouais. À Paisley Park. Tout commence en 1999 pour Prince, mais c'est pas l'année de lancement de Spendesk, ça arrivait un peu après. Pourquoi ce choix ?
Pourquoi Purple Rain ? C'est pour Purple essentiellement. Depuis le début de Spendesk, le violet, ça a peint nos vies. On a eu ce choix de... sur un segment de marché qui est finalement les dépenses professionnelles, la finance.
Normalement, c'est bleu.
Ouais, non, mais qui est souvent assez conventionnel par nature. Où finalement, notre premier produit qui permettait d'éviter le partage de cartes au sein d'une organisation, on est arrivé avec des cartes violet flash sur ce marché. Et depuis, le violet fait partie intégrante de qui on est, de notre marque, de notre identité. Ça retraduit un peu ce changement finalement de la norme du statu quo, notamment les cartes d'entreprise, ça a été quelque chose qui est assez statutaire hein, traditionnellement. C'est dédié à une certaine catégorie de personnel et ce qu'on a voulu vraiment, vraiment couper.
Donc, avez démocratisé la carte également en changeant les codes couleurs.
Mais ça en fait partie finalement. Tu vois, tu peux entrer dans la carte noire que tout le monde a. Mais...
Et alors au démarrage, sur le pricing, vous cherchiez à valider la valeur perçue par vos futurs clients, parce qu'au départ c'était des utilisateurs mais pas des clients, c'était gratuit.
L'idée de Spendesk, elle vient vraiment de ce... Pour moi, il y a eu deux moments finalement qui m'ont un peu ouvert les yeux en me disant il y a quelque chose qui est cassé dans ce process-là. Je pense que le premier moment, c'est lorsque ma première entreprise s'est fait racheter par une plus grosse boîte, le groupe Solocal, et où j'étais un peu frappé de manière très naïve par la bureaucratie, la lourdeur des process qu'on peut avoir dans des grandes entreprises. À l'époque, manquant de maturité, je m'étais dit bon, c'est pas pour moi, je reviens dans un monde plus agile de petites boîtes. Et là, j'ai rejoint Drivey, donc Drivey, location de voiture entre particuliers, juste après leur série 1, où j'avais l'équipe financière finalement dans mon scope au début, et où on retrouve finalement cette agilité opérationnelle de petite boîte où il n'y a pas de sujet. Mais à mesure où on grossit, qui crée un chaos total au niveau financier, donc on a besoin de mettre de la structure pour comprendre où va l'argent de l'entreprise. Et je crois énormément aux organisations de travail qui reposent sur la confiance et sur la liberté en quelque sorte. Confiance et finalement comment est-ce qu'on donne le pouvoir de décision aux collaborateurs et liberté par comment est-ce qu'on élimine les contraintes qui les empêchent finalement de faire leur travail.
Puis qui bouffent du temps parfois à tout le monde.
Exactement. Et en fait, quand on parle, on arrive à maintenir ça, sauf quand on parle d'argent. Quand on parle d'argent, c'est tellement sensible, émotionnel, compliqué. C'est une source qui est contrainte. Ça demande tellement de confiance, finalement, qu'on revient dans des modèles très centralisés, très bureaucratiques. Et l'idée de Spendesk, elle est vraiment là, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut donner aux équipes financières une manière, les outils pour pouvoir aider leurs collaborateurs de travailler de manière moderne, donc face à cette consumérisation de manière de faire, décentralisation, pouvoir de décision, accès aux moyens de paiement de l'entreprise. Donc, désolé pour ce long intermède.
Ça permettait de comprendre le contexte, voilà. Le pourquoi.
Parfois, de manière excessive, on aime bien mettre des étiquettes, des catégories dans la segmentation des secteurs de la tech. Alors du coup, est-ce que Spendesk, c'est plutôt une fintech ou on est plutôt dans le domaine HR tech, c'est-à-dire dans le domaine du travail? En fait, la réalité, j'ai l'impression que c'est un peu entre les deux. Mais...
C'est entre les deux. On s'adresse quand même aux équipes financières. Ce sont nos clients. On est une fintech par essence parce qu'on distribue des moyens de paiement. Donc finalement, on introduit la technologie financière dans nos produits. mais on est sur un modèle SaaS. Donc, on est vraiment à une convergence de plusieurs éléments.
Oui.
Donc, pour répondre à ta question, on est arrivé avec... Donc, c'est une nouvelle manière de faire les choses, tu vois, une nouvelle manière de voir les choses. Et je me rappelle, quand on arrive avec cette idée de Spendesk, en tout cas sur notre premier produit, qui est finalement comment est-ce qu'on donne ce pouvoir aux collaborateurs quand ils ont besoin d'acheter en ligne, donc sur des achats cartes, hein, c'était la première version de Spendesk. Il y a cet enjeu, finalement, de perte de contrôle que tu peux avoir des équipes financières qui n'ont pas l'habitude, qui un CFO lorsqu'il rentre dans une boîte ou une équipe financière, enfin première personne en finance que tu recrutes dans une start-up, la plupart du temps ce qu'il fait c'est qu'il coupe l'ensemble des cartes.
Je pouvais pas ne pas te couper.
Il coupe l'ensemble des cartes. Et donc du coup on a eu besoin de comprendre finalement si le problème qu'on résolvait, si la solution qu'on apportait était la bonne et pouvait finalement transformer cette manière de faire, cette culture des dépenses au sein de l'entreprise. Donc Spendesk était gratuit au début pour qu'on puisse comprendre ses usages avant de devenir payant.
Et alors, au moment où vous êtes devenu payant, on pourrait imaginer qu'il y a un taux de déperdition énorme au moment du passage au fait de payer. 97% des utilisateurs ont suivi.
Ouais, bah c'était. Je pense qu'on a eu trois moments un petit peu waouh dans cette première année de développement de notre premier produit. Le premier, c'est un produit pour l'utiliser, il fallait que tu mettes de l'argent sur un compte. Donc finalement, au niveau de friction de tes utilisateurs quand tu veux leur faire ton tester en produit, c'est partage de cartes, c'est pénible. Oui, on a une solution pour ça. Ah,
faut mettre
de l'argent dessus. Ah, donc bon, voilà. Ça c'était le premier point. Et les gens le faisaient. Donc ça nous a dit, on s'est dit, tiens, en fait, le problème est suffisamment important.
C'est un faux problème.
Voilà. Deuxième point, c'est, on s'est rendu compte que l'usage de nos premiers utilisateurs, nos premiers prospects, augmentait. Très rapidement, semaine après semaine, plus en plus d'utilisateurs, plus en plus de volume de dépenses. Donc là, on s'est dit, ah, ok, génial, en fait, la solution qu'on a construite, c'est la bonne. Et le troisième test, c'est finalement, est-ce qu'on apporte de la valeur à nos clients? Et c'est là où, justement, on a mis en place notre premier pricing et sur la centaine de prospects, d'entreprises qui nous utilisaient, mais en effet, je pense qu'ils sont passés tous de gratuit à payant et on en a perdu peut-être trois dans l'aventure.
Tu as parlé de premier pricing, le pricing a évolué ensuite?
Le pricing a évolué aussi ensuite parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on s'est posées sur finalement quelle est la valeur qu'on apporte, comment est-ce qu'on capte une partie de cette valeur, quelle est, face à ces nouveaux usages, quelle est l'appétence à payer de la part de nos clients, de nos prospects. Donc il a fallu pas mal itérer pour essayer de se comprendre finalement, mais où est-ce qu'on se positionne, surtout au début, est-ce qu'on a une solution de carte? Donc finalement, est-ce qu'on se positionne vis-à-vis des banques là-dessus? Est-ce que finalement on a une solution logicielle? Mais du coup, comment est-ce qu'on la price? Et donc ça demandait pas mal d'itérations avec nos clients, avec nos prospects, pour essayer de comprendre finalement comment est-ce qu'on est arrivé à packager notre produit et notre offre.
Alors, comme tu le disais, vous êtes un SaaS, donc vous offrez un service logiciel en ligne. Et alors, comment est-ce que c'est... Alors, on reparle du pricing, justement, du prix. C'est pricé comment? C'est par nombre d'utilisateurs? C'est sur les flux financiers? Quel est le...
Alors, sur aujourd'hui, les features accessibles,
ouais,
aussi.
Aujourd'hui, parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions dans les cinq dernières années, mais aujourd'hui, Spendesk est pricé sur un modèle SaaS, c'est-à-dire que tu as grosso modo trois plans, hein, en fonction des fonctionnalités dont tu as besoin et qui traduit finalement la complexité que tu as besoin de gérer avec l'outil. Complexité organisationnelle, est-ce que tu as besoin de flux de validation poussés? Est-ce que tu as besoin d'automatisation de la gestion de tes flux? Et capacité transactionnelle. Enfin, quel nombre de transactions est-ce que tu fais passer par ta plateforme? Donc là, t'as trois plans qui intègrent un certain nombre de fonctionnalités dans ces plans. Et ensuite, dans la valeur perçue par nos clients, finalement, elle se passe sur le volume de transactions qui passent par la plateforme. Non pas en euros, mais en nombre de transactions. C'est-à-dire que tu payes une facture fournisseur, que tu rembourses une note de frais, que tu fasses un achat en ligne. Finalement, c'est les transactions que la plateforme va t'aider, d'un point de vue d'une équipe financière, à automatiser, traiter, contrôler, t'assurer de la conformité. Et c'est finalement ce qui va te faire gagner énormément de temps au quotidien et qui va t'apporter de la valeur.
Très clair. Et qui sont les utilisateurs, quel est le persona, enfin qui est l'utilisateur des cartes Spendesk du coup au sein de l'entreprise?
Donc, au niveau de la plateforme, finalement, tu as trois personas. Tu as l'équipe financière qui est responsable de la banque, qui est responsable finalement des flux financiers de ton entreprise, donc à la fois du contrôle, de la mise en comptabilité, de s'assurer de la conformité de tes flux. Ça, c'est une première persona qui est notre persona d'acheteur. Ensuite, tu as une deuxième persona qui sont les responsables de budget. Les personnes qui ont l'autorité au sein de l'entreprise, qui ont un budget... et c'est pas forcément une question de rôle, hein, une question de statut, mais qui ont un budget à sur lequel ils ont un niveau de contrôle, un niveau de décision, et qui peuvent distribuer à d'autres membres de l'entreprise. Et enfin, tu as les personnes qui vont faire des achats, donc l'ensemble des collaborateurs. On parle de cartes, mais finalement, tout le monde est amené à un moment dans sa vie d'employé à effectuer une dépense ou un achat pour une entreprise. Ça peut être un achat... une dépense, on pense souvent aux dépenses de voyage, de conférences, ce qu'on appelle vraiment dans notre jargon T&E, mais en fait pas que, des achats d'outils, les achats de produits, les achats de services, des achats stratégiques parfois. Je vais te donner un exemple, par exemple, Olivier. Si tu prends l'exemple de quelqu'un en marketing aujourd'hui qui organise un événement, c'est intéressant parce que traditionnellement, les process des boîtes étaient structurés en fonction des cas d'usage ou des moyens de paiement. Donc, tu prends cette personne en marketing qui organise son événement. D'abord, il va devoir, finalement, planifier l'événement, donc acheter les booths, des mots qui sont souvent des achats assez significatifs. Et ça va être parfois qualifié d'achat stratégique. Paiement par virement, par facture, avec devis, purchase order, etc. Ensuite, je vais faire la promotion de cet événement. Je vais dire on y est, je vais faire des publicités, je vais acheter de l'achat en ligne. Donc là, je vais faire souvent des paiements cartes en ligne, sur du Google, sur du Facebook, sur du LinkedIn, whatever, quels sont les différents canaux d'acquisition, etc. Où on rentre dans une catégorie d'achats qu'on appelle les achats discrétionnaires. Et enfin, finalement, je me rends à l'événement avec des commerciaux, par exemple. Donc là, je vais payer du transport, de l'hôtel, du restaurant, du champagne. Et là, tu rentres dans une logique, finalement, de ce qu'on appelle T&E, note de frais. Fondamentalement, tout cet événement, c'est un même budget. C'est une même allocation de dépenses. Et le casse-tête pour une équipe financière, c'est d'arriver à réconcilier tout ça, tous ces différents flux, finalement, au sein d'une même enveloppe. Et c'est ce que va te permettre de faire Spendesk.
Une question sur la concurrence. Aujourd'hui, il y a des néobanques qui proposent d'avoir des cartes virtuelles, pareil, pour allouer les dépenses. C'est pas le même sujet, c'est pas votre sujet, ou s'il y a, ouais, il y a un peu de friction entre les deux offres?
Non, je pense qu'il faut vraiment différencier les moyens de paiement, qui pour moi sont ou seront une commodité, et finalement ton process opérationnel. Et ça va dépendre des segments de marché que tu adresses. Une toute petite boîte qui a ses équipes financières qui sont externalisées. Typiquement, une boîte entre 1 et 15 personnes, la personne en finance dans ta boîte, ça va être ton expert comptable qui va faire le travail en partenariat avec toi. Tu n'as pas besoin d'un système opérationnel, tu n'as pas besoin d'un système d'exploitation. Tu as besoin d'avoir soit une meilleure expérience bancaire, hein, très proche de l'expérience que tu peux avoir dans ta vie privée, soit un meilleur tableau de bord comptable pour finalement fluidifier les échanges que tu peux avoir avec ton expert comptable. Donc, je pense sur ce segment de marché, finalement, la réponse est une offre néobanque ou une offre comptabilité, nouvelle comptabilité. Nous, notre segment de marché, il commence à avoir un vrai product market fit à partir du moment où tu internalises ta fonction financière. Et le paradigme change. Quand tu internalises ta fonction financière, c'est que tu dis, en fait, je vais donner à quelqu'un la responsabilité de s'assurer que l'argent de ma boîte est bien dépensé. En interne. Et donc, du coup, cette personne va avoir dans la responsabilité de se dire, en fait, comment est-ce que je mets en place mes logiques de contrôle interne? Comment est-ce que je mets en place la gestion de mes flux, mes différents process? Comment est-ce que, vu que je suis tenu comptable, finalement, de mettre à disposition des équipes mes résultats financiers, leur performance financière, comment est-ce que finalement j'arrive à traiter mon métier tout en gérant cette complexité opérationnelle. Et c'est là où tu as besoin d'un OS, c'est là où tu as besoin d'un système d'exploitation, et c'est là où Spendesk rentre en jeu, parce que finalement, ça va être cette interface entre ta banque et ton logiciel de comptabilité.
On aime bien comprendre les défis auxquels ont dû répondre les entrepreneurs. C'était quoi les gros défis pour Spendesk?
Je pense que le premier, ça a été que notre marché n'était pas définie quand on a démarré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, quand on a commencé à construire ce qu'on faisait, personne ne cherchait une solution. C'est intéressant, hein, parce que quand on a commencé à réfléchir à l'idée, on a interrogé beaucoup, beaucoup de personnes, et on a appris deux choses. On a appris le paiement d'entreprise, c'est nul. Il y a un tel gap entre ce que je vis dans ma vie privée quand je dépense mon propre argent en termes d'expérience et ma vie en entreprise où c'est bureaucratique, hyper papier. J'ai l'impression que ça fait de vivre quelque chose qui existait il y a 40 ans. Et en même temps, je pense que c'est le plus intéressant. Les gens qui me disaient, mais Rodolphe, tu sais, c'est comme ça. C'est ce qu'on s'attend, c'est ce dont on s'attend quand on rentre dans un contexte professionnel. J'avance de l'argent pour ma boîte, je me fais rembourser, je me bats, je vais à la finance pour faire payer une facture. Enfin voilà, tout c'est comme ça. Donc pour moi, c'était... Je me dis, il y a une opportunité là. Personne n'est satisfait de cette expérience-là.
Et puis les collaborateurs n'aiment pas trop être le banquier de leur propre boîte aussi.
Tout le monde vit dans la norme. Mais finalement, cette manière de faire les choses, cette décentralisation, cette distribution, cet accès de l'ensemble des collaborateurs aux moyens de paiement de l'entreprise, ça stresse. Hein. Enfin, c'est une nouvelle manière de faire les choses. Donc, fondamentalement, les entreprises, elles cherchaient des solutions ponctuelles. C'est comme ça que le marché était structuré. Par exemple, des logiciels de notes de frais, des logiciels de gestion de tes factures fournisseurs, ta banque, hein, tes moyens de paiement, mais n'avaient pas ce changement culturel de distribution, de décentralisation de ces moyens de paiement au sein de la boîte. Et donc, je pense que ça a été notre grosse difficulté au début, c'est que personne n'était satisfait et personne cherchait une solution comme Spendesk. Spend Management, ça n'existait pas pour les sociétés entre, en effet, 30 et 1000 collaborateurs. Les gros groupes avaient des solutions en place, de procurement, ce qu'on appelle, mais pas pour les petites boîtes. Et donc, du coup, la création de cette demande, cette transformation de marché, ça a été notre challenge dans nos premières années.
C'est quoi, en rendez-vous clientèle, les gens ne comprenaient pas, ou ça mettait 8 mois à signer, c'est...
On a toujours eu des cycles de vente qui étaient plutôt courts, c'était plutôt de se dire comment est-ce qu'on crée de la demande? Comment est-ce qu'on trouve les boîtes
qui viennent à vous?
Normalement, sur un modèle SaaS qui s'adresse à des petites et moyennes entreprises, donc finalement avec des paniers moyens qui ne sont pas très élevés, hein, les canaux d'acquisition par lesquels on commence, c'est des canaux d'inbound. Et la plupart des modèles SaaS sont souvent des produits de remplacement, c'est-à-dire que j'arrive sur un marché existant avec des nouvelles features, avec des nouvelles fonctionnalités ou un prix moins cher, et du coup, je vais aller capturer la demande là où est-ce qu'elle est. Nous, on ne pouvait pas aller acheter quelques mots-clés Google et se dire on va faire venir des gens sur notre site parce que personne n'était là. Donc du coup, ce qu'on a dû aller travailler comme canaux d'acquisition, c'était canaux d'acquisition d'outbound, donc on est allé prospecter des boîtes, des clients. On leur demandait comment ça se passait chez eux. On leur dit, il y a une solution, ça vous intéresse de tester? Ah bah oui. Donc, et ce modèle s'est mis à bien marcher parce que justement, on avait un taux de conversion très élevé sur l'ensemble des conversations qu'on pouvait avoir.
Mais quand tu dis que le problème n'existait pas, ou en tout cas, bon, il n'était pas, il n'y avait pas de,
il y avait
de
pas
marché
de demande,
parce qu'il
n'y
avait,
ouais,
avait pas encore de solution. Donc... Bon, d'une certaine manière, on peut dire que vous avez créé votre marché d'une certaine façon.
Oui,
mais
non,
en même
ouais.
temps, le problème existait quand même, parce que sinon,
Toutes les boîtes ont dû gérer leurs dépenses opérationnelles. Je pense que dans la manière, je pense qu'en effet, tu n'es pas dans une création de marché. Tu vois, t'es pas comme, je sais pas, la réalité virtuelle qui existait pas il y a 10 ans et qui va exister,
ouais,
avec des nouveaux besoins qui s'expriment.
Tu parles toujours au futur, hein, de la VR. Ouais. C'est drôle.
Non, mais tu vois, mais c'est plus une restructuration, resegmentation d'un marché existant vis-à-vis d'un changement d'usage qui est en train de se produire. Et ce changement d'usage qui est en train de se produire, pour moi, c'est cette consumérisation de notre manière de travailler, de notre manière ouais. d'acheter, de notre manière de fonctionner, qui répond finalement à nos attentes de ces nouvelles manières d'organisation.
Mais le problème des chefs d'entreprise PME ou de leurs équipes financières et comptables, c'est plutôt de... Parce que c'est trop compliqué, il y a trop de pas passés, etc. Donc il y a un sujet de simplification dans les process internes d'une entreprise. Ou est-ce que c'est aussi... Enfin, c'est peut-être les deux, tu me diras. Est-ce que c'est une crainte de perte de contrôle, du coup? De qui dépense quoi, de traçabilité, de où va l'argent?
Alors, en fait, pour une équipe financière qui est mûre, traditionnelle, tout est centralisé, tout est sous contrôle. Mais en fait, tu augmentes ta satisfaction financière au détriment de ton agilité opérationnelle.
De la simplification, oui.
Exactement. Donc finalement, la finance est contente, mais les équipes opérationnelles ne le sont pas du tout, parce que tout prend une infinité de temps, des cycles de décision qui sont compliqués, etc. Mais pour une équipe financière, si tu veux, j'ai une contrôle parfait sur mes flux, je sais où est-ce que l'argent est dépensé, je produis mes résultats en temps et en heure.
Mais aussi, ça leur prend du temps quand même. Enfin,
oui, oui. Ouais. Ça leur prend du temps quand même, mais tout dépend du degré de contrainte que tu mets dans ton système. Mmh. Plus tu vas contraindre le système en disant finalement ça on fait pas, les dépenses cartes il n'y en a pas, je simplifie mon métier, mais finalement
on perd de liberté. Ouais.
Ma liberté opérationnelle est le plus compliquée. Donc finalement tous les produits et services dont je pourrais avoir besoin qui sont en ligne, je ne vais pas pouvoir les avoir.
Alors, mais vous proposez uniquement les services au moment du paiement ou également en phase amont le funnel, enfin le process, par exemple, si un appel d'offres, différents devis, des choses comme ça, enfin la validation et le contrôle amont et aval sont également inclus dans le flux de spend.
On gère l'ensemble de l'ensemble du métier qui sont liés au traitement opérationnel de tes dépenses professionnelles dans un contexte où tu donnes accès aux moyens de paiement à ton collaborateur. Donc finalement, lorsque tu es libre de pouvoir accéder par exemple à une carte d'entreprise quand tu as besoin d'acheter, quel degré de validation est-ce que tu mets en amont, quel degré de contrôle est-ce que tu mets en amont pour finalement te sécuriser sur tes allocations de dépenses. Et on traite évidemment tout ce qui est travail, parce qu'un des problèmes de l'équipe financière, c'est cette diversification des flux qui amène de la complexité dans leur métier. Donc, tous ces flux-là sont réconciliés automatiquement et prémis en comptabilité au sein de la plateforme.
Rodolphe, tu parles de contrôle, tu parles de complexité. Comment rend sexy un sujet qui l'est pas, par essence, dans l'esprit des gens, peut-être de certains DAF, mais...
Je pense que là...
C'est grâce au violet.
Ouais, voilà, le violet, ça aide. Non, mais si tu veux, je pense que tous les collaborateurs aujourd'hui ont été confrontés à des situations qui sont pénibles et qui paraissent aberrantes au sein de l'entreprise. Donc finalement, c'est un sujet qui parle. Si tu veux, t'as une telle différence entre ce qu'on vit dans notre vie privée en termes d'expérience utilisateur dans les différents produits qu'on utilise, qu'on est en attente de retrouver ça dans nos entreprises, cette liberté
du choix.
C'est
finalement ces collaborateurs qui sont pushy en interne pour faire adopter ces solutions.
Mais même si tu veux, aujourd'hui tu rentres dans une boîte où finalement tu te retrouves avec des process où tu travailles comme tu travaillais il y a 30 ans, bon ben finalement tu
gardes pas tes talents quoi.
Non. Ouais.
On parlait des débuts, ces moments où vous aviez les premiers défis face à vous, c'est un moment où on se pose beaucoup de questions. Et sur ce sujet, on a une question justement de Lucille Cornet. Je te laisserai nous dire qui c'est, on l'écoute.
Vous avez un message.
Salut Rodolphe, c'est Lucille Cornet de Etroads. Je voulais te poser comme question, quel est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné ?
Et qui te l'a donné ?
Ouais, qui m'a donné ?
Je plaisante.
Pas,
pas de bashing.
Le pire conseil, peut-être n'allez pas chez Etroads. Et tu as raison de ne pas le suivre. C'est un de tes investisseurs.
Donc Lucille, c'est une de mes investisseurs, en effet, qui est justement souvent de très 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 bons conseils. Quel est le pire conseil qu'on ait pu me donner ?
Ça ne marchera jamais, n'y va pas.
Ouais, bon, ça c'est fréquent, je pense, que pour tous les entrepreneurs lorsqu'on démarre en disant mais à la fois au niveau client et à la fois au niveau entourage en disant mais attends, est-ce que c'est un vrai marché ? Tu changeras jamais les usages, les gens pourront le faire. C'est pas vraiment un conseil, c'est plus une opinion. on se souvient souvent des bons conseils, on a du mal à se rappeler des mauvais. Donc le pire conseil, je sais pas si ça va être le pire, mais je pense qu'un mauvais conseil que j'ai pu avoir, c'était de, avant de démarrer finalement, de avoir une étude de marché extrêmement complète, un business plan à 5 ans extrêmement bien ficelé, alors que finalement il y a tellement d'hypothèses où personne n'en sait rien,
ça
voilà,
doit mouiller.
Que ça va pas changer mon business. Donc ce temps alloué sur des choses qui n'ont, notamment dans les débuts, je pense que le focus de l'entrepreneur doit être sur deux choses. C'est un, s'assurer qu'on comprend bien le problème qu'on est en train de résoudre, et deux, construire la bonne solution pour pouvoir le faire. Et en fait, tout le reste, et ça j'ai peut-être appris dans mon histoire, tout le reste c'est accessoire au début, quoi. Donc voilà, ce conseil qui était, je pense, ma première expérience, qui était finalement d'avoir quelque chose d'extrêmement bien ficelé avant même de commencer.
Un autre sujet qui n'est pas accessoire, c'est celui de l'association. Donc on va pouvoir en parler avec cette question.
Vous avez un message.
Salut Rodolphe. Si je me souviens bien, l'aventure de Spendesk est née au sein du startup studio eFounders. Concrètement, quel rôle est-ce qu'ils ont joué dans le succès de ton entreprise? Et est-ce que tu recommanderais ce genre de structure à tout entrepreneur qui aimerait se lancer demain?
Cette question, elle t'est adressée par Maya Noël de France Digital.
J'avais pas reconnu la voix de Maya.
C'est une très bonne question. Je pense que c'est la réponse courte, c'est oui. Je pense que j'ai énormément bénéficié de cette association avec eFounders. Je pense que ça dépend du mindset de l'entrepreneur au moment où il démarre. Et ça dépend finalement de ce qu'on cherche à optimiser. Pour moi, ce que je voulais, et ça fait écho à ce que je viens de dire, ce que je voulais, c'est vraiment m'assurer de concentrer mon temps et ma bande passante sur la compréhension du problème et la construction du produit. Et je voulais donc du coup, finalement, le problème que j'essayais de résoudre, c'est comment est-ce qu'on minimise cette période d'apprentissage, cette période d'itération pour arriver à trouver le product market fit et de se dire, tiens, on est sur quelque chose qui va vraiment, il y a vraiment le potentiel de créer une très belle boîte. Et c'est exactement ce que m'a amené eFounder, c'est-à-dire qu'en amenant des ressources, en amenant une marque, en amenant des fonds, dans cette phase d'early stage, ça m'a permis de me concentrer à 100% sur vraiment cette construction de la vision, cette construction d'un produit de qualité professionnelle très tôt pour finalement nous permettre de valider les bonnes hypothèses.
La réputation de eFounder, c'est vrai, c'est ce qu'on entend dire et ce qui est confirmé par pas mal de preuves et de démonstrations aussi par le lancement des startups, c'est qu'ils sont très très forts en produit. Je crois que c'est aussi une des obsessions de Thibault Elzière. Est-ce que toi, je ne sais pas toujours comment ça se passe chez eFounders, ça peut être l'occasion d'en parler un tout petit peu, mais est-ce que toi, tu es arrivé avec une idée ou est-ce que c'était une idée de eFounders qui t'a intéressé? Comment, ou est-ce que, d'ailleurs, je crois, parce que peut-être que chez eFounders, ou en tout cas dans certains startups studios, ça dépend, il y a plusieurs schémas et c'est pas toujours le même.
Bah, comment ça se passe là? Logic Founders avec Camille Tian, où c'est lui qui a un stock d'idées sur étagère,
ouais, il y a
et
de l'idéation, voilà,
l'entrepreneur.
Avec Thibault, on s'est rejoint sur quelque chose, c'est-à-dire que j'étais dans cette phase où un peu de découverte entrepreneuriale en me disant, tiens, il y a plusieurs sujets qui m'intéressent et je vois plusieurs problèmes à résoudre. Et je me rappelle cette discussion avec Thibault en me disant, où il me partageait les différents projets, les idées qu'ils avaient chez eFounders, et il me dit, on a cette idée là, éviter de se partager la carte, là, faire quelque chose avec des cartes virtuelles. Et c'est là où ça a connecté, je me suis dit, attends, ça pourrait être une première brique pour construire ce système opérationnel là, donc qui nous manquait dans mes expériences précédentes et qui aurait vraiment simplifié, enfin donné, enfin cet outil collaboratif aux équipes financières pour pouvoir traiter ces flux. Et je pense qu'on s'est rejoint là-dessus, c'est-à-dire que très rapidement la discussion n'a pas été dans une logique est-ce qu'on s'associe, est-ce qu'on s'associe pas, etc. Ça a vraiment été une discussion produit en disant qu'est-ce que ça pourrait être et si on pense à ça et comment est-ce que tu vois les choses. Et en fait on s'est rejoint du coup et excité tous les deux à démarrer cette aventure ensemble.
Ça marche comment? T'as beaucoup d'accompagnement, tu parlais des équipes, des fonds, etc. C'est tout est concentré sur 6 mois, 1 an, et puis en fonction de ce que ça donne, eFounder se retire peu à peu. C'est quoi le modèle?
Ouais, je pense que ça a été très variable et ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc je suis pas sûr de pouvoir parler quel est le modèle d'eFounders aujourd'hui et quel était le modèle avant.
On va les faire venir.
Quand j'étais arrivé chez à mon moment, je pense que c'était un moment où le studio reconstruisait quelque chose. Ils étaient passés sur un premier cycle et ils arrivaient sur un deuxième cycle. On a construit pas mal de choses ensemble en termes de process, de playbook, notamment dans cette phase d'early stage. Mais la grosse valeur qui avait pour nous, c'est vraiment deux choses. C'est un, des gens qui étaient extrêmement qualifiés sur place, qui pouvaient travailler avec l'entrepreneur depuis le début.
Qualifiés, c'est sur quel sujet?
Bah, extrêmement bon. Il y a Didier Forest en design, Axel en produit, la vision que Thibault peut amener sur une excellence produit. Amaury qui a amené énormément d'expertise sur le rythme opérationnel, notamment au début. Quentin qui est arrivé avec une structuration financière. Donc finalement, quand on est tout seul, un peu dans sa chambre de bonne ou dans son garage, on est tout seul. Donc en fait, le temps d'apprentissage sur les choses, et vu qu'avec énormément de streams parallélisés, ça prend énormément de temps. Donc pour moi, la valeur du studio, elle était là. C'est-à-dire, c'était vraiment dans cette capacité où, en effet, d'aller très vite.
Gagner du temps.
Exactement. Dans la validation des hypothèses et de se dire, en fait, on est sur quelque chose. Est-ce que c'est timé, pas timé? Nous, on a été une des boîtes qui est sortie le plus tôt du studio, et c'est plus parce qu'on avait rencontré...
Ils sont plus du tout chez Spendesk, qui sont sortis...
Ils restent long terme en tant qu'investisseurs, cofondateurs investisseurs.
Mais sur l'opérationnel, c'est...
Mais ils sont plus dans l'opérationnel, ouais.
Je me rends pas compte, c'est les mêmes pourcentages qui sont pris au capital de toutes les boîtes dans lesquelles ils...
Je pense que ça dépend, je n'ai pas cette vision, il faut leur demander.
Là, c'est une question embarrassante, là, ça. Ouais. Non, mais bien sûr, c'est curieux, pas Rodolphe qui a parlé au nom Defenders. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on connaît les succès Defenders et on aura l'occasion d'inviter d'autres entrepreneurs qui, peu à peu, rentrent dans le Next 40. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une grosse différence entre le Spendesk de départ de 2016 et celui de 2022?
À quel niveau?
Dans les services proposés, est-ce que ça a été plutôt l'addition de fonctionnalités supplémentaires sur une même colonne vertébrale, un même backbone, ou est-ce qu'il y a eu aussi des évolutions plus fondamentales, enfin en dehors du fait que c'est passé à un moment donné payant et donc il y a eu un tournant, quand même assez tôt
parce que c'était l'été 2016, donc en fait on a construit la boîte légalement au moment où on a eu besoin de facturer nos premiers clients. La vision a toujours été assez solide depuis le début, assez cohérente plus que solide, en se disant voilà comment est-ce qu'on a envie de s'opposer, voilà où est-ce qu'on pense qu'il y a une opportunité très forte sur ce marché, où avec cette volonté de devenir cette norme, ce nouveau standard du paiement au travail, de l'expérience de paiement au travail. Au niveau produit, il y a énormément d'évolutions. C'est-à-dire qu'on a démarré vraiment avec un MVP. La proposition de valeur, c'était arrêter de vous partager la carte, donner accès à ces moyens de paiement, notamment pour les achats en ligne. Et petit à petit, on a pris chaque cas d'usage où un collaborateur était amené à effectuer des paiements pour le compte d'entreprise et on a réimaginé quel est le bon workflow là-dessus, quelle est la bonne expérience et finalement, quelle est la complexité à gérer pour les équipes financières. Donc, notre plateforme est passée de quelque chose qui était plutôt siloté, tu vois, dans les différents moyens de paiement qu'on adressait ou cas d'usage qu'on adressait, à aujourd'hui ce positionnement d'une plateforme tout en un, ou c'est ce qu'on disait 7 en 1, qui va gérer, comme tu dis, les problématiques en amont du paiement, le paiement et les problématiques post-paiement. On est loin d'avoir fini. Si tu veux, si on veut devenir ce système d'exploitation, ce système qui vraiment abstrait toute cette complexité de cette bureaucratie qui est liée au paiement au sein de l'entreprise, il y a tout un enjeu de connectivité de notre plateforme dans ton écosystème. Il y a tout un enjeu d'optimisation de tes flux, tout un enjeu de prise de décision et de prise de contexte quand t'as besoin de dépenser. Donc, quand on a créé le business, je pense que la vision était consistante. Le type de business était consistant, on pourra revenir. Enfin, ce qu'on avait envie de construire était très clair, on pourra revenir dessus. Ensuite, en termes d'évolution produit et maturité dans ce qu'on a fait, oui, je pense que ça a énormément évolué en 5 ans.
On parle de l'avenir, du coup.
Eh ben oui, on y est. I have a dream. Alors, c'est Martin Luther King, le monde de demain. Et c'est vrai qu'on aime bien poser la question aux entrepreneurs qui, par définition, doivent se projeter dans l'avenir et ont aussi l'audace de penser des solutions qui n'imaginaient, enfin, en tout cas, qui n'existaient pas forcément chez tout le monde. Et est-ce que dans cet univers, du coup, de la finance, du paiement, surtout, je rappelle le contexte un peu actuel, hein, aujourd'hui, on est en 2022, on est pas encore complètement, mais un peu sorti quand même de la crise Covid, mais pas toujours. Donc
il y a
un contexte où on a l'impression qu'on s'installe dans des crises qui peuvent rendre plus difficile la vie des entrepreneurs. D'abord sur l'accès à l'argent, parce qu'on lève de l'argent régulièrement pour accélérer la croissance, recruter, développer, aller à l'international, etc. Et puis il y a également l'impact directement de la crise ensuite sur le business, hein, donc sur la capacité à signer des contrats, etc. Donc est-ce que ça fait partie aujourd'hui de votre vision de s'adapter dans le discours commercial et ou dans le produit d'ailleurs aussi à ce contexte?
Ce qui est sûr, c'est comme tu dis, le contexte est en train de changer. Est-ce que c'est une surprise? Je dirais non. La surprise, c'est plutôt que ça arrive aussi vite. Je pense que ça a été précipité, évidemment, par le conflit en Ukraine, par la sortie du Covid, qui met des éléments perturbateurs à un système qui était déjà sous tension. Est-ce que ça change la vision de l'entrepreneur, en tout cas la vision pour Spendesk? Pas du tout. Est-ce que ça change notre manière d'opérer dans le futur? Peut-être. Si je reviens sur la vision sur Spendesk, on repose quand même sur un produit ou sur une proposition de valeur qui repose sur une révolution, une transformation qu'il y a dans nos manières de travailler. C'est vraiment la thèse qui est derrière Spendesk, c'est finalement cette consumérisation de nos achats, de notre expérience professionnelle.
Qu'est-ce que ça veut dire consumérisation dans ce cas-là? C'est parce que tu veux dire que ça se rapproche plus de la vie du consommateur dans
c'est
sa vie privée.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où à l'époque tu pouvais tu te satisfaisais des systèmes, des process, des achats qui étaient faits par ton entreprise D'accord. pour toi. Aujourd'hui, tu veux avoir le choix, tu veux avoir la liberté, tu veux être capable de décider.
Et ça, donc, ça c'est du point de vue du collaborateur.
Tu veux avoir la même type d'expérience que tu en entreprise que tu as en ta vie
D'accord,
privée.
D'accord. Je pense à 360. Je voulais repréciser le mot consumérisation, ouais. mais c'est très clair. Ouais.
Ça repose sur une digitalisation finalement des process de l'entreprise. Ça repose sur une accélération, en tout cas, de globalisation des produits et des services. Aujourd'hui, ce qui crée de la complexité, finalement, dans les différents produits et services que tu peux acheter, tu en as une multitude qui sont accessibles dans le monde entier. Donc, comment est-ce que tu gères cette complexité-là? Qui sont finalement, pour moi, quelque chose qui est une tendance long-termiste et sur lequel Spendesk surf. Dans un cadre de récession, le cash devient important, la traçabilité de tes dépenses devient importante, l'efficience opérationnelle de ton business devient importante. Bon, ça tombe bien, c'est trois éléments que notre produit et notre proposition de valeur aident les entreprises
Je me disais une chose, Thomas, c'est, après, je dis pas ça pour te provoquer, mais on essaie de faire toujours un petit peu voilà, la chasse à la vérité et au zéro bullshit. Et donc, la question que je me pose en plus, en complément de ça, c'est de dire, ben, alors vous offrez des solutions, et puis bon, le succès de Spendesk est aussi là pour le démontrer. Mais la question plus concrètement, j'entends dire aussi que, alors, dans la génération de business, enfin en B2B, ça peut devenir quand même plus compliqué. Est-ce que vous anticipez qu'il puisse y avoir des difficultés plus carrément commerciales? Est-ce que le fait que quand tu crées un nouveau marché, un nouveau service, est-ce que quand les gens se replient, enfin les chefs d'entreprise, les directeurs financiers se replient un peu sur leur trésorerie, est-ce Bien que sûr. Ça peut devenir plus compliqué de vendre la solution Spendesk ou pas, en fait?
Bon, je pense que oui, dans un contexte vraiment de récession massive, la prise de risque ou les investissements qui peuvent être faits sont un peu plus... doivent être vraiment justifiés, si tu veux. Donc la question, c'est est-ce que c'est un investissement supplémentaire ou est-ce que tu permets soit de faire des économies, soit d'augmenter ta top line tel que le produit nous le permet aujourd'hui. Ça te fait quand même des économies qui sont significatives et te donne cette traçabilité, finalement, visibilité sur tes dépenses opérationnelles.
Si tu parles d'économie, vous arrivez à la jauger?
Ben, nos équipes financières, elles nous le disent, elles gagnent une semaine par mois de traitement opérationnel. Le ROI, les médias, quoi. Là où je te, si tu veux, on a, et c'est une question qu'on s'est posée, par exemple, au début de Covid. Au début de Covid, on a tous vécu la même chose, hein. C'est, l'économie s'est arrêtée.
Ouais.
Tu vois, sur le premier confinement, l'économie s'est arrêtée. Et je pense que tous les entrepreneurs, ça, se sont demandés, et on l'a vu avec nos clients. Hein, nos clients, ils regardaient la liste des produits et des services qu'ils utilisaient. Et ils se disaient,
ça, je sors, ça, je garde.
Ça, c'est essentiel, ça, en fait. C'est nice. Au revoir. La vraie question que tu te poses en disant est-ce que je suis un must-have, est-ce que je suis un nice-to-have, tu l'as uniquement dans une période de crise, en fait, la vraie réponse, tu vois.
C'est de savoir si on résiste effectivement, est-ce qu'on est vraiment nécessaire, quoi.
Et nous, bah, on a passé cette période, notamment notre niveau de churn n'a pas du tout augmenté, au contraire, on a vu une accélération. Une fois que l'économie s'est remise, en tout cas que les boîtes ont eu besoin de s'adapter à ce nouvel normal, on a revu cette accélération.
Et typiquement, avec le Covid et le développement du travail en remote, est-ce que ça a donné encore plus de sens à l'utilisation de vos services ou aucun impact?
Bah, fondamentalement, dans un contexte où tu peux pas aller au bureau de ta finance pour aller te faire rembourser une dépense, pour aller récupérer une carte, pour aller faire payer une facture, comment t'opères? comment t'arrives à opérer en disant mes collaborateurs, ils sont chez eux, ils sont confinés chez eux, mais on travaille. Donc, qui dit travailler, engager des dépenses, engager des produits, engager des services, acheter des choses, comment je fais? Je partage des numéros de carte enfin, tu vois, par email, il y a le problème de sécurité. Donc, évidemment,
donc la réponse
pour
est
nous,
oui, de la croissance pendant cette période.
Tu obliges des entreprises à travailler de manière décentralisée, de manière moderne, pendant cette période-là. Donc, si tu veux, pour nous, oui, on a été un outil fondamental dans cette relation qu'il peut y avoir entre les finances et les équipes opérationnelles.
Vous le disiez tout à l'heure, Olivier en parlait, cette période-là, c'était aussi des levées de fonds. Et à ce propos, on a une question d'Anne Taffin, qui est journaliste chez Madinès. On l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour. Lors de votre levée de fonds d'avril 2021, vous annonciez vouloir vous lancer aux États-Unis. Où en est votre réflexion sur le sujet ? Et quelles sont les différences culturelles majeures auxquelles vous allez devoir vous adapter ?
On a une équipe aujourd'hui aux États-Unis. On sait que dans notre ambition, être sur le marché américain, ça sera extrêmement important pour nous. On a construit Spendesk et depuis le début avec une logique de comment est-ce qu'on optimise sur l'apprentissage. On a démarré l'international étant pour nous l'Europe, très très tôt. Et on était confinés à l'Europe uniquement parce que c'est un sujet réglementaire.
On finit avant l'heure.
On fait du paiement. Mais très très tôt, je veux dire, 2016, en fait, pour comprendre d'un point de vue produit quels sont les impacts d'expression de besoins internationaux, on annonçait toutes les semaines qu'on lançait dans un nouveau pays pour récupérer 10, 15 prospects et au moins engager la discussion.
Pas mal ça comme petite technique.
Ouais. Ouais, on traduisait notre site web qui était honnêtement juste une page à l'époque et ça nous permettait d'avoir quelques leads et comprendre. Les États-Unis, on est dans la même logique. C'est finalement comment ce qu'on arrive, quels sont les éléments différenciateurs sur le marché américain dans le contexte de cette gestion de dépenses opérationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire de passer d'une culture du débit, qui est notre culture européenne, à une culture du crédit, qui est une culture américaine. Comment est-ce que finalement les usages des collaborateurs changent ? Aux États-Unis, j'ai appris, j'étais surpris. En France, on se dit, tu l'as dit Thomas, tu vois, je rentre dans une boîte, j'ai pas envie d'être la banque de ma boîte. Aux États-Unis, les employés veulent être leur banque de leur boîte. Parce que ils ont un truc qui s'appelle le credit score, qui leur permet d'acheter des appartements, des voitures. Et donc, du coup, avoir une ligne de crédit ouverte pour ma boîte, sachant que je vais être remboursé, c'est du pain béni, si tu veux. Ça m'augmente ma qualité de risque crédit et ça me permet d'ailleurs de faire plein de choses.
Grosse différence culturelle, oui.
Donc, fondamentalement, ça veut dire qu'en termes d'usage, ce n'est pas juste de la traduction de produits, c'est comment ces flux de travail, comment cette culture... Parce que, par contre, les problèmes sont toujours les mêmes. C'est finalement comment je permets à des gens de dépenser de l'argent qui ne leur appartient pas et leur donner cette autonomie, cette agilité opérationnelle. Donc ça, tu as besoin de le comprendre sur le marché en confrontant ton produit avec tes utilisateurs et souvent, ça peut prendre du temps.
Et là, vous êtes dans cette phase où ça
on
prend du temps.
On est complètement dans cette phase-là. Ça prend du temps. On a plus d'une centaine de clients américains. On a, je crois, à peu près 300 compagnies, entreprises européennes qui sont aux États-Unis qui utilisent Spendesk. Et ça nous permet finalement de se dire, en fait, où est-ce qu'on est au niveau produit? Est-ce que c'est un produit ISO? Est-ce que c'est un produit différent? Quel positionnement? Est-ce qu'on va cibler les mêmes segments ou des segments différents? Quelle stratégie de go-to-market, tu vois. Est-ce que finalement le modèle qu'on a construit en Europe va fonctionner de la même chose aux États-Unis ou peut-être qu'il sera pas...
Tes premiers sentiments sur...
Il y a une opportunité gigantesque aux États-Unis, mais on a des adaptations produits.
Mais pas de la même manière.
Ouais.
Pourquoi ?
Encore une fois, pour ce changement culturel, et le deuxième point, c'est un écosystème financier, en tout cas l'équipement des équipes financières, l'équipement équipe financière, qui est plus mûr, plus digitalisé. Donc, c'est plutôt une logique de remplacement versus une logique d'équipement qu'on peut avoir en Europe.
Et vous avez des concurrents déjà identifiés ou intéressants aux États-Unis ?
Qui ont levé beaucoup d'argent aussi, qui sont plutôt sur une logique de carte corporate. Mais fondamentalement, si je prends notre segment de marché, tu vois, les boîtes... Donc, des PME américaines entre 30 et 1000 collaborateurs, tu en as à peu près 2 500 000 aux US. Aujourd'hui, tu prends tous les acteurs qui adressent ce marché, dont des boîtes qui sont cotées en bourse, comme par exemple Bill.com. Je crois qu'ils atteignent 300 000 clients maximum. Enfin, l'opportunité n'est pas du tout...
La taille du marché.
Parce qu'il adresse mal ou parce qu'il y a aussi des réticences à un moment à utiliser des solutions?
Je pense qu'il l'adresse très bien. C'est juste que la taille du marché est gigantesque. Il y a énormément de place.
On parle de l'international. Alors, je suis un petit pas de côté, mais on a une question. On en parlait tout à l'heure d'eFounders, de Amaury, chez eFounders, qu'on te propose d'écouter.
Vous avez un message.
Je crois que vous avez parmi vos salariés parisiens une grande proportion de gens qui ne parlent pas français ou dont ce n'est pas la langue native. Donc j'aimerais comprendre pourquoi vous avez un peu cherché à faire ça. Comment on fait pour recruter des étrangers, des gens d'origine étrangère à Paris? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et éventuellement les difficultés associées à ce point. Merci.
On a à peu près, je crois que c'est 40% de nos effectifs, en effet, qui sont étrangers dans la boîte, et notamment à Paris.
La logique, c'était justement d'aller conquérir le monde depuis Paris, ou c'est une autre démarche?
C'est ce qu'on a fait au début, mais cette ambition globale qu'on avait depuis le début, de devenir cette standard, cette norme finalement du paiement au travail, ça nous a forcé à adopter... Honnêtement, on était ridicule au tout début, quand on était 10 Français
à parler anglais,
à avoir toutes nos communications en anglais, à tenir nos meetings en anglais, toute la communication corporelle en anglais. Mais du coup, notre employé, la 15e personne qui rejoint la boîte était américaine. L'intégration s'est faite très vite et très rapidement, on a pu avoir une diversité de talents très internationaux. Donc, pour nous, ça a été un choix. Ça a été vraiment de se dire, il y a des choses qu'on connaît, qu'on sait faire en France, en Europe, mais il y a plein de choses qu'on sait pas non plus. Plus on amène cette diversité de connaissances, plus ça va être riche pour nous. Il y a des choses, on va adresser des marchés internationaux, on a besoin de comprendre, on a besoin de personnes natives qui les comprennent, ces marchés-là, qui comprennent leurs utilisateurs, encore une fois, dans cette logique d'optimisation de l'apprentissage. Donc finalement, comment est-ce qu'on crée un système opérationnel dans notre boîte pour pouvoir les attirer et qu'ils soient successful. Et je pense que très tôt, en effet, on a été une des rares boîtes françaises qualifiées un peu comme des boîtes. En fait, les gens pensaient que Spendesk n'était pas une boîte française, donc très 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 internationale. Et je pense que ça a payé, ça nous a énormément aidé à la fois dans notre développement, mais même dans notre manière de réfléchir, notre manière de penser. Il y a aussi des inconvénients, la communication elle est moins fluide, tu vas moins vite, tu vois, tu n'arrives pas
à trouver le mot juste et la nuance du mot.
Exactement, le mot juste, la nuance, tu as des enjeux de communication, mais du coup c'est des muscles que tu développes petit à petit et qui te donnent une force, une très belle force lorsque tu as besoin de te déployer.
J'imagine que vous avez une culture d'entreprise, mais est-ce que vous avez été volontaire dans la façon de la créer, et est-ce qu'il y a des rituels ou des choses qui ont été imaginées spécifiquement prenant en compte cette caractéristique qui est d'avoir des gens qui viennent du monde entier, enfin en tout cas de plusieurs pays différents, de plusieurs nationalités, pour que tout le monde aille quand même dans la même direction, en dehors de la question de la langue parlée?
Ouais, c'est deux sujets sur lesquels on peut s'étendre longtemps.
Ouais.
Sur la culture d'entreprise, on a été intentionnel, mais de manière collective. Tu vois, ça n'a pas été quelque chose que j'ai établi dans mon coin ou que les cofondateurs ont établi dans leur coin. C'est quelque chose qui est très rapidement. Je pense que lorsqu'on était une quinzaine, vingtaine, on a commencé à réfléchir de manière collective. En se disant, mais c'est quoi notre esprit? Qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qu'on a envie de construire en type de boîte? Qu'est-ce qu'on aime quand on opère? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Et on a commencé à construire des codes, ce qu'on appelle un code culturel, donc une formalisation de nos observations, et qui a évolué au fur et à mesure du temps, mais sur lequel, intentionnellement, on a été...
Mettre des mots.
Très, très tôt. Très, très tôt. Et commencer surtout, mis des mots, même si c'était imparfait, on le savait, de cette représentation, mais à intégrer dans notre système opérationnel, dans la manière de recruter, dans la manière de promouvoir, dans la manière de se séparer, quand il y a besoin de se séparer, avec une logique où finalement, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nos croyances? Voilà.
Je pousse un peu là-dessus, pardon, perds pas ton idée, mais c'est intéressant parce que c'est un sujet qui est jamais évident de se séparer de quelqu'un. C'est quoi la méthode et l'approche? Tu parlais de vos valeurs ou de la manière dont vous souhaitez faire les choses. C'est sur un sujet aussi pas agréable que celui-ci. C'est quoi la vision?
Écoute, on a une approche très humaine très bienveillante, si tu veux, dans nos conversations, même quand c'est des conversations difficiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour moi, et c'est pas forcément évident, par une fois, t'as la théorie et ensuite t'as la pratique. Mais le niveau 1 de ta bienveillance, c'est de se dire, je vais communiquer les choses telles que j'aimerais qu'elles me soient communiquées. Le niveau 2, le niveau ninja de ta bienveillance, et finalement, je vais communiquer les choses de la manière dont la personne aimerait que cette chose lui soit communiquée. Donc, c'est assez dur en termes de conscience de soi.
Quand tu recrutes quelqu'un, tu dis si jamais on doit se séparer, comment tu veux qu'on t'annonce?
Bah non, mais tu vois, c'est des questions. Et souvent, on revient quand c'est des sujets de performance ou des alignements culturels, c'est une surprise pour personne. On le sait. On arrive à se dire, mais en fait, on n'a pas les mêmes. Dans cet environnement-là, ça sera compliqué. On n'arrivera pas à s'entendre. Est-ce que ça se passe bien tout le temps? Non, mais on n'a jamais eu. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a une. On se sépare quand même souvent en très très bons termes.
On en a parlé juste avant de lancer, parce qu'il y avait une question que je te poserai tout à l'heure avec Olivier, d'un de tes ex-associés, mais d'une précédente boîte. Et au départ, je croyais que c'était un ex-associé de la boîte. Je t'ai dit, c'est étonnant. Et tu m'as dit, non, mais il y a aussi dans les fondateurs de Spendesk, un associé qui est parti et avec qui on s'entend toujours bien. C'est quand même assez rare pour être souligné.
Écoute, je sais pas si c'est rare ou si c'est pas rare, mais c'est assez naturel.
On a quelques exemples où c'est
plus compliqué.
Il y a, quand on se sépare, il peut y avoir des problèmes d'argent, des problèmes de voilà,
d'égo, de vision,
de vision, de désalignement en tous les cas d'intérêt. Ouais.
Je pense que encore une fois, pour nous, ça n'a pas été le cas parce que du coup, il y avait un alignement finalement sur le fait que Jordan voulait partir de la boîte. C'était de son côté et on a pris le temps de se préparer ce départ depuis un moment. Le contexte, c'était au moment où on a levé notre deuxième tour de table, notre série B. Jordan ne s'est pas forcément projeté sur la suite de l'aventure. Il me l'a dit, on a discuté entre cofondateurs. On s'est dit, OK, mais du coup, ça veut dire quoi en termes de plan?
Comment
on transitionne? Ouais. Comment on s'organise? En fait, ça nous a pris 9 mois, cette transition. De recruter les bonnes personnes, de les former. Jordan a dû prendre un autre scope pendant ce temps-là pour arriver à le construire et faire le 0-to-1 dont on avait besoin. Et une fois que ça commençait à être établi, que ça roulait, il est parti. Et il est parti pour monter un autre type de business et qu'il avait très envie de revenir en early stage, en fait. Financièrement, ça a plus été une discussion entre lui et nos investisseurs qu'entre lui et moi, quoi.
D'accord.
L'a dit très très rapidement, mais derrière ton aventure Spendesk, déjà il y a d'autres aventures avant. Je vous propose de découvrir l'homme derrière l'entreprise dans un second volet qui sort dans quelques minutes pour ceux qui nous ont presque en direct.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.